Pendant les fêtes de fin d'année, nous prenons tous part à des soupers chargés où l'alcool coule souvent à flot.
Alors même si c'est, on va pas se mentir, hein, c'est pas pour nous déplaire ce genre de repas, c'est pas forcément très très bon pour notre santé, en particulier si ces repas un peu trop abondants sont fréquents.
Alors on parle ce matin de la goutte qui est une maladie en rapport avec l'excès de la table, notamment. Il est donc d'autant plus important d'en parler après les fêtes avec notre invité Éloi Baumgartner, docteur et spécialiste des maladies rhumatismales. Docteur Baumgartner, bonjour, bienvenue. Alors première question, qu'est-ce qui cause la goutte en premier lieu ?
Alors donc la goutte, c'est une forme de rhumatisme qui est particulièrement douloureuse et qui va se manifester par des accès d'inflammation articulaire. Et puis, le plus souvent, ces accès d'inflammation articulaire vont être favorisés par la présence dans le sang d'un excès d'une substance qu'on appelle l'acide urique.
C'est à ce niveau-là que, quand on parle d'excès de la table, que c'est à ce moment-là que ça peut avoir une influence sur la goutte.
Tout à fait. L'acide urique, en fait, est un produit un peu de dégradation de notre métabolisme. Et donc, en fonction des substances qui vont être ingérées, on va avoir une production accrue de cet acide urique. Et quand il dépasse un certain taux dans le sang, eh bien, on risque l'accès fatal qui va être particulièrement douloureux.
Et ça veut dire que cet excès d'acide urique dans le sang, il peut concerner tout le monde à tout âge, quand on fait des repas trop généreux ?
Alors, pas tout à fait. Donc, la goutte reste quand même un rhumatisme à nette prédominance masculine, puisque 80% des personnes qui en souffrent sont des hommes. Généralement, elle survient après l'âge de 40-45 ans, donc dans l'âge moyen. Et chez la femme, elle peut aussi survenir, mais de manière beaucoup plus tardive, après la ménopause, parce que les hormones féminines exercent un effet protecteur.
Donc ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire que les gens qui ont des rhumatismes, en général, ont plus de risques d'avoir ce type particulier de rhumatisme, ou alors, rhumatisme par rhumatisme, tout le monde peut souffrir de crises de goutte ?
Alors en théorie, tout le monde peut être sujet à la goutte, mais il existe quand même des facteurs prédisposants, en dehors des facteurs alimentaires de surcharge. Ces facteurs prédisposants sont principalement d'ordre génétique ou héréditaire.
Alors, quels sont les symptômes ? Qu'est-ce qui fait qu'on va remarquer que l'on a des crises de goutte ?
Alors, généralement, quand on fait une crise de goutte, on s'en souvient, parce que c'est un accès très aigu qui survient de manière subite, souvent la nuit ou au petit matin.
Très douloureux, donc ?
Très excessivement douloureux. Je pense que c'est parmi les crises articulaires les plus douloureuses que l'on peut rencontrer. Alors, c'est vrai que classiquement, ça se manifeste surtout au niveau du gros orteil, à la base du gros orteil. Et à ce moment-là, le gros orteil, en quelques heures, va devenir très enflammé, rouge, chaud. L'effleurement même des draps sera extrêmement sensible. Et vraiment, c'est quelque chose de très pénible.
On parle aussi de la pseudo-goutte. Et c'est quoi la différence ?
Alors, vu le nom pseudo-goutte, vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de parallèles entre les deux maladies. Alors, la caractéristique commune ou les caractéristiques communes à ces deux affections rhumatologiques sont la survenue de crises tout à fait brusques d'inflammation articulaire qui touche généralement une ou quelques articulations, mais rarement beaucoup d'articulations à la fois. Et puis, en fait, la différence fondamentale, c'est que, comme je l'ai dit en préambule, la goutte est due à un excès d'acide urique qui va former des cristaux. Dans la pseudo-goutte, on a aussi des cristaux qui vont se former dans les articulations pour provoquer l'inflammation. Mais ces cristaux sont de nature différente. Ce ne sont pas des cristaux d'acide urique, ce sont des cristaux de calcium. Et enfin, il faut rappeler que la pseudo-goutte touche une population plus âgée et qui est, contrairement à la goutte, généralement féminine.
On le disait tout à l'heure, boire trop de vin, manger trop, aller dans les excès, ça peut amener la goutte, ça peut le faire du jour au lendemain. Comment ça se passe ? Si on a fait trop d'excès durant les fêtes, on peut encore être sujet à faire des crises de goutte aujourd'hui, au 12 janvier ?
Alors tout à fait, c'est vrai que on a longtemps considéré la goutte comme la maladie des rois, donc des gens ayant une alimentation relativement chargée et bien arrosée. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va favoriser la goutte, c'est finalement le fait d'avoir chroniquement dans le sang un taux d'acide urique augmenté. Or, si à la faveur de repas copieux, voire bien arrosés, comme on en a eu pendant les fêtes, ce taux d'acide urique augmente encore, on va dépasser un certain seuil et la formation de cristaux va survenir, ce qui va provoquer l'inflammation articulaire. Donc c'est vrai que quand un patient vous téléphone le 5 janvier en vous disant qu'il a très mal aux pieds, même s'il n'a jamais fait de crise de goutte auparavant, on a déjà une petite idée sur le problème qui pourrait être le sien.
Mais ça veut dire que c'est quelque chose quand même, les excès, on va dire, de la table doivent être chroniques, c'est pas un gros repas qui va déclencher une crise de goutte.
Alors parfois, un seul gros repas suffit, hein, chez les personnes prédisposées ou qui ont déjà fait des accès de goutte, ça peut suffire, mais souvent quand même, c'est un style de vie un peu répété, on va dire, où les gens font régulièrement bombance, et c'est ce qui va expliquer qu'à la longue, eh bien, ces accès vont survenir.
Vin blanc, vin rouge, une différence par rapport à la goutte. J'ai entendu dire que le vin blanc, il fallait absolument éviter quand on était sujet aux crises de goutte.
Alors, on attribue beaucoup de mots au vin blanc. Dommage pour les producteurs. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que finalement, par rapport à l'alcool, les vins sont beaucoup moins, je dirais, à risque pour le déclenchement d'une crise de goutte que d'autres alcools. Le principal responsable, c'est la bière. C'est la bière parce que la bière contient des levures qui sont riches en une substance qui va être dégradée en acide urique. Les spiritueux sont aussi à éviter, mais chez les patients goutteux, on tolère une consommation quotidienne chez l'homme de 2 à 3 verres de vin, chez la femme un petit peu moins parce qu'elle a un seuil de cristallisation qui est plus rapide.
À 3, c'est plus sympa. Format à 3.
Et nous sommes de retour avec notre invité ce matin, le docteur Éloi Baumgartner, spécialiste en maladies rhumatismales.
Nous parlons de la goutte ce matin, une maladie rhumatismale très douloureuse qui frappe toujours beaucoup.
Alors, docteur Éloi Baumgartner, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est ce nom de goutte donné à cette maladie. Et c'est quelque chose d'historique, en fait.
Oui, tout à fait. En fait, la goutte est une maladie très ancienne, puisque les premières descriptions remontent à l'Antiquité. Le célèbre médecin grec Hippocrate, auquel on doit notre serment, eh bien, a fait les premières descriptions, mais à l'époque, on n'appelait pas ça la goutte. Le médecin Hippocrate a appelé ça la podagre, c'est-à-dire, ça signifie en grec « pris par le pied », par allusion à l'atteinte du pied. Et c'est qu'en fait, aux alentours du 9e siècle, que le terme de goutte est apparu, surtout dans le langage populaire, pour évoquer un problème articulaire, comme si une humeur un peu nocive se distillait goutte à goutte dans la jointure pour provoquer les maux que l'on connaît. Alors ce qu'il faudrait peut-être juste ajouter, c'est que pendant très longtemps, le terme de goutte a été utilisé pour décrire des tas de rhumatismes différents, autre que la goutte telle que nous la connaissons aujourd'hui, même certaines polyarthrites étaient appelées de la goutte, on appelait la goutte sciatique, pour les gens qui faisaient des sciatiques, et c'est qu'à la Renaissance, qu'on a vraiment rapproché le terme de goutte de celui de podagre qui avait été amené par Hippocrate.
Alors, la goutte, on l'a compris, c'est en lien avec une alimentation souvent trop riche. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent entraîner des crises de goutte? Est-ce que l'hérédité joue un rôle dans ces crises de goutte?
Alors, tout à fait. Le rôle de l'hérédité est majeur. Il est majeur parce que finalement, comme je vous l'ai expliqué, dans la goutte, c'est un problème d'accumulation d'acide urique dans le sang. On appelle ça une hyperuricémie quand on fait les dosages sanguins. Et cet acide urique, en fait, c'est un produit de dégradation de certains métabolites de notre organisme. Eh bien, il y a une production, mais il y a surtout l'élimination qui se fait au niveau des reins. Or, on sait que le mécanisme principal d'augmentation du taux d'acide urique dans le sang, c'est un défaut d'élimination par les reins et que ce défaut d'élimination est grandement modulée par des facteurs génétiques ou héréditaires. D'où le fait qu'on a souvent des familles de goutteux où on retrouve plusieurs personnes dans une même famille qui vont être atteintes de cette maladie. Ce qui nous aussi, médecins, des fois nous oriente quand on pose des questions, de savoir, ah tiens, le fait qu'un oncle, le père, le grand-père fassent des accès identiques, ça nous oriente aussi vers ce diagnostic.
Et comment on soigne la goutte? Est-ce qu'il y a des médicaments ou il suffit juste de changer ses habitudes alimentaires?
Alors heureusement, pour ceux qui en souffrent, il existe des médicaments très efficaces pour traiter la goutte. En fait, quand on parle de traitement de la goutte, il faut distinguer deux faces. Premièrement, le traitement de l'accès aigu de goutte. Et d'autre part, ce qui est très important pour éviter que la goutte ne devienne chronique avec toutes les complications que cela peut amener, c'est un traitement préventif. Alors le traitement aigu de la goutte, eh bien, il est relativement standard. Généralement, on utilise des anti-inflammatoires, voltarène, brufène, etc. Voire de la cortisone qui marche très bien en injection dans l'articulation touchés. Donc ça, c'est important. On encourage les patients à beaucoup boire pour favoriser l'élimination donc, de l'eau, naturellement, oui. Parce que sinon, ça va un peu compliquer l'évolution. Pour favoriser donc, l'élimination de ce produit, on met au repos l'articulation. Parfois, on est obligé, par exemple, de mettre un arceau au-dessus du pied, parce que, comme je l'ai dit préalablement, le simple contact du drap de lit peut être hyper douloureux. Ça, c'est l'aspect traitement de la crise aiguë. Mais, en fait, ce qui est le plus important, je pense, parce qu'une crise de goutte qu'on ne traiterait pas a une évolution qui est spontanément résolutive. Alors, on va avoir mal quelques jours, mais après une semaine, 10 jours, ça va passer. Le problème, c'est que si on ne fait rien, ces accès, par définition, vont se répéter. Ils vont se répéter à une certaine fréquence tout d'abord, puis cette fréquence va se raccourcir, les accès durer plus longtemps, et on aura un état chronique. Donc, l'importance du traitement préventif.
Le traitement préventif, il passe notamment par un régime, par exemple ?
Alors, tout à fait. Je crois qu'il est fondamental chez le patient goutteux de modifier son style de vie, son mode de vie. Donc, il s'agit, dans son alimentation, de renoncer ou en tout cas de limiter le recours à certains aliments. On cite classiquement les viandes rouges, les abats. Donc, la goutte, elle est aussi, je dirais, très fréquente après la Saint-Martin, en Ajoie, hein, par exemple. Donc, les abats, les poissons aussi, et les fruits de mer. On recommande naturellement d'éviter les consommations de boissons alcoolisées comme, je l'ai dit auparavant, la bière et les spiritueux. On tolère un peu d'alcool, de vin. Et puis aussi, ce qui est important de rappeler, c'est que le café, par exemple, est préventif. On sait que quelqu'un qui boit 4 à 5 cafés par jour a 40% de moins de chances de faire une crise de goutte que celui qui n'en boit pas. Donc ça, c'est dans les facteurs alimentaires, les éléments qu'on va essayer de privilégier. Un autre élément aussi important qu'on oublie, c'est que la goutte peut être favorisée par l'excès d'absorption de sucre, donc de fructose, qu'on retrouve dans les fruits, mais surtout dans les sodas. Donc attention aux sodas, y compris ceux qui sont, comment dire, sucrés avec le saccharose, parce qu'ils augmentent le risque de goutte. Donc quand on dit aux gens qui ont de la goutte à côté du régime, il faut beaucoup boire, c'est de l'eau, en tout cas 2 litres par jour. Et enfin, le dernier élément, il faut essayer de lutter contre le surpoids, donc pratiquer une activité physique régulière, ça c'est fondamental.
C'est des conseils qu'on donne tant à ceux qui ont de la goutte que de la pseudo-goutte. Hein, on a fait la distinction tout à l'heure.
Alors, comme je l'ai dit peut-être, la pseudo-goutte ne relève pas des mêmes mécanismes. Il n'y a pas d'effet du régime dans le déclenchement d'une crise de pseudo-goutte, car les cristaux ne sont pas de la même nature. Ce sont des cristaux de calcium, alors que la goutte, donc, ce sont des cristaux d'acide urique. Et là, le fait d'avoir un taux d'acide urique augmenté dans le sang ne favorise pas la pseudo-goutte. Donc, il n'y a malheureusement pas de moyen de prévenir les crises de pseudo-goutte, qui sont quand même plus rares que les crises de goutte.
Très bien, docteur Eloi Baumgartner, merci d'être venu nous parler ce matin de la goutte. Finalement, une maladie qui pose pas mal de questions, mais on l'a vu, il y a quand même la possibilité de guérir. Il n'y a pas encore de remède, de miracle, j'imagine. Il y a des recherches qui continuent de se faire dans ce domaine, mais la meilleure des choses reste la prévention, donc une alimentation plus équilibrée.
Alors tout à fait, je pense que la prévention est fondamentale, parce que comme je l'ai dit, une goutte maltraitée, et c'est malheureusement souvent le cas, on pense que plus d'un patient sur deux n'est pas traité correctement ou pris en charge correctement. Il est indispensable de le faire, sinon on va avoir une maladie chronique qui aura des tas de conséquences, y compris des atteintes et des destructions d'articulations, des dépôts de cristaux d'acide urique sous la peau, qu'on appelle des tophus. Et le remède miracle, oui, on aimerait toujours avoir un remède miracle, mais il n'existe pas encore. Et ça, je pense principalement lié au fait, comme je l'ai dit, que un des facteurs principaux, c'est le défaut d'élimination au niveau des reins de l'acide urique, et ce facteur est lié à des marqueurs génétiques. Donc il faudrait là, à ce moment-là, déboucher sur des thérapies géniques pour modifier les anomalies qui se situent au niveau du rein. Ça, c'est encore de la musique d'avenir.